A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
De sardines, blanquettes de kefta, méchoui de veau de 7 heures. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai déjà la serviette nouée autour du cou. Alors, c'est vrai que j'ai déjà une longueur d'avance sur vous avec ce livre de recettes intitulé « Alimentation générale ». On manque pas d'humour hein, dans la famille Alaoui.
Écoutez, vous me donnerez un radis.
Comment vous dites,
vous me donnerez un radis.
Un radis. Bien, monsieur, et ensuite ?
Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt.
1m77, 78 kilos, pas mouillé, 38 ans, de tagine familiale. Abdel Alaoui épluche, écosse, décortique sa vie, qui est une double vie apparemment, entre sa toque de chef cuisinier et ses planches de comédien, ses trois restaurants et ses multiples chroniques télé, la France et le Maroc. Au menu en sol majeur de son alimentation générale, une louche de savoir-faire, une jasminade et un couscoussier de gourmandise. C'est bien vu ça, Abdel Alaoui. C'est pas le frère. C'est quoi une jasminade ?
Une jasminade, alors je suis parti sur une base de citronnade. J'aime bien ajouter une ad après chaque herbe. Là, en ce moment, je fais une verveinade, comme camomimade. Camomimade.
Ouais. Et en fait,
une couillonnade aussi, ça peut le faire. Hein. Jasminade, c'est un thé jasmin à la fleur d'oranger, glacé. Donc, je mets du jasmin, du thé vert, une feuille de menthe et une rondelle de citron.
Vous savez parler aux femmes, vous.
Ah, mais c'est facile.
Vous êtes un tchatcheur, vous diriez.
Ça va, je tchatche avec la cuisine, j'arrive avec un plat et j'ai pas besoin de parler.
Un bon alimenteur aussi, non?
Ouais.
Vous savez faire
bien.
Ça, hein. Bienvenue en sol majeur où l'on parle donc du lien au sol, c'est-à-dire à la terre, natale, d'accueil, d'adoption. Du sol majeur, genre tonton du bled ou Farid El Atrache, on verra ça, avec notre chapeau de questions.
Il paraît que le fœtus s'imprègne des goûts de la mer. Quels sont vos goûts les plus anciens ?
Moi, mes goûts les plus anciens, ce serait l'huile d'olive, la fleur d'oranger, la semoule, le cumin. Il y a beaucoup de cumin dans cette cuisine marocaine et celle de ma mère. Elle en met partout et le pain chaud quand il sort du four.
Vous gardez quelle image, vous, de votre mère en cuisine ?
Je la vois décortiquer, je la vois frotter sa semoule, égrainer comme ça avec ses belles mains. Je la vois pétrir le pain, éplucher, écosser. Enfin voilà, je l'ai toujours vue en cuisine, ma mère. Et c'est aussi ce qui m'a donné l'envie. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, on recevait du monde tout le temps, tous les week-ends à la maison pratiquement, mes oncles, tantes, cousins. Et ma maman était en cuisine et je me devais de l'aider.
Ah oui, donc il n'y avait pas que les frangines à la cuisine.
Il n'y avait pas que les frangines à la cuisine. Et du coup, j'ai pris beaucoup de place, moi, du coup, dans la cuisine. Je faisais ça vite, rapidement, bien surtout, j'apprenais rapidement et je suis devenu un peu le commis de ma mère.
Qu'est-ce que vous aimiez le mieux préparer avec elle ?
Alors bizarrement c'est le thé à la menthe, j'adorais faire ça. Je faisais bouillir l'eau, je préparais mon thé vert, je le rinçais plusieurs fois, je mettais la menthe, le sucre, bien dosé et j'aimais relever cette théière et créer cette rza, ce qu'on appelle rza, c'est la petite mousse qui est à la fin bien aérée et j'adorais faire ça. Donc ma mission c'était de faire du thé à la menthe et ça l'est encore aujourd'hui, c'est-à-dire que même avec les années de cuisine que j'ai fait, avec mes diplômes et j'ai eu de la chance de faire de la télé, de passer par des grands restaurants. Ma mère, à chaque fois, je l'avais, elle me fait, tiens, tu peux nous remplir le thé. Ta mission, c'est que le thé aujourd'hui. Tu ne fais pas manger.
C'est le cérémonial qui vous intéresse.
Exactement, ouais. J'ai famille.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cette fameuse mousse ? Petite écume, là.
Alors, cette petite écume, elle est hyper importante. Quand on rince le thé au début, moi, le premier rinçage de cet thé vert, je le garde. On a l'impression que c'est des impuretés, alors que non, c'est
le sucre.
Voilà, c'est un peu le sucre. Je le mets de côté, je rince, après j'enlève le maximum de théine dans le thé vert. Et après, à la fin, je mets mon eau bouillante, ma menthe, faut pas la mettre dès le départ parce qu'il faut qu'elle infuse, faut pas la brûler. Je mets mon sucre et c'est le sucre qui va donner cette mousse. Voilà, sirop un peu épais. Et je rajoute ma première rincée voilà, dans ce thé.
Et puis il y a le geste final.
Le geste final, ouais, on va aérer ce thé vert. Et plus on va l'aérer, plus on va avoir cette mousse avec du sucre. Et un thé à la menthe, c'est sucré. C'est bizarre de demander un thé à la menthe non sucré. Quoi.
Pourtant, hein, bon. C'est en train de devenir à la mode.
C'est en train de devenir. Avec mes restaurants, je le vois de plus en plus.
Tout se perd. La cuisine au Maghreb, c'est vrai que c'est lié en général à un mode de vie, à des traditions, à des fêtes. Est-ce que ce contexte-là, oriental, marocain, a été reconstitué dans votre enfance en banlieue parisienne ?
Ouais, elle a été reconstituée. Elle a fait partie de mon enfance. J'ai eu de la chance de grandir dans un quartier où il y avait pas que des Marocains. Il y avait des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, des Portugais. Donc
à Saint-Germain-en-Laye.
À Saint-Germain-en-Laye, dans
au sud de Paris.
Et j'ai eu la chance donc de voir plusieurs plats différents, plusieurs façons de cuire, plusieurs façons de se comporter aussi autour d'une assiette. Au Maroc, par exemple, on mange tous dans la même assiette. Donc c'est une éducation, c'est un comportement.
On met la main à la pâte, voilà, on mange avec la main.
Exactement. Et donc ce que je voyais au Maroc, je le voyais forcément chez moi.
Vous êtes né à Oujda en 79. C'est comment Oujda? Ça ressemble à quoi?
Oujda, c'est Marrakech sans les touristes. Donc c'est une ville qui est très traditionnelle. On a gardé vraiment nos valeurs, nos traditions, notre architecture. Elle a été pendant longtemps, je pense, mise à l'écart et abandonnée par à l'époque de Hassan II. Elle s'est faite toute seule en fait, Oujda. C'est une ville qui est à la frontière algérienne, avec tout ce qu'il peut y avoir entre deux pays, et on l'avait là. D'un côté il y avait Oujda, de l'autre il y avait Mirniya, c'est un village qui est aussi en Algérie, et on vivait tous ensemble. Mes tantes sont parties se marier à Tlemcen, j'ai des tantes algériennes.
Comme quoi le grand mélange est possible entre les Algériens
sûr.
Et les Marocains.
Ouais, exactement.
Non, mais
maintenant elle est fermée cette frontière, malheureusement.
Ouais, voilà. Dans quelles conditions ils sont arrivés en France, vos parents?
Mon père est arrivé dans les années 70. En tant qu'ouvrier, donc il a tout de suite été peintre en bâtiment. Moi, je suis né à Oujda, j'ai attendu 3 ans, à peu près et demi, 4 ans pour arriver en France avec le regroupement familial à l'époque. Donc on a eu cette chance d'avoir mon père qui travaillait en France. Tous ne sont pas restés, il y a plein de pères marocains qui sont rentrés après au pays. On a commencé à faire les écoles, les maternelles.
Trop
tard pour rentrer.
Est-ce que l'obtention de la nationalité française a changé des choses dans votre vie, dans la tête aussi des parents, dans votre tête à vous?
Ce qui est étrange, en fait, la nationalité française, c'était comme... C'était presque religieux, en fait, chez nous. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas forcément avoir. Enfin, on est religieux par le pays, par notre éducation, par la famille. Et tout le monde disait, ouais, la nationalité française, c'est comme si tu devenais français, t'imagines, les valeurs marocaines, les traditions, être musulman, c'est pas forcément être français. Ça, c'était vraiment à l'époque, comme quoi on était vraiment... On avait des idées un peu assez arrêtées. Et donc, avoir une nationalité française, c'est presque... Nous, on dit haram.
Oui, c'est péché.
C'est péché, quoi. Et après, non, je sais pas, il y a eu cette vague de demande de nationalité. On a commencé à faire une demande de nationalité et ça a beaucoup changé. On se sent français.
Donc vous vous sentez pas blédard
pour... Pas du tout, ouais, pas du tout blédard. Je suis français, j'ai grandi en France. Mes amis sont français, j'ai une question à moitié marocaine, française. Non, non.
Alors pour vous, c'était Saint-Germain-en-Laye, Abdel Alaoui. Pour d'autres, c'était Vitry, direction le groupe 113.
Ouais,
113 comme le numéro de la cité de Rimka, leader avec Mokobé de ce groupe 113. Pourquoi Tonton du Bled?
Tonton du Bled parce que ça résume notre voyage au Bled, quoi, au Maroc. On partait de Paris le 1er juillet et on revenait le 1er septembre. On était en 504, on était en R18, on était en R12 et ça durait pendant 4 jours et on était content de partir, quoi.
Hey, Tonton, les cabas, ils sont trop lourds.
Allez, monte dans la voiture.
Regarde, Bilal,
monte,
il
monte,
s'en
monte,
va.
Monte, Bilal, monte. Hey, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va. Eh. Hey. Eh, mes Karim, Tonton du Bled.
Tonton du Bled.
Pour tous les Miss Mourt. Bled ou Bledi.
Bledi.
504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zidzitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien. Des Nike Air au Visa. De la traversée du désert au Boukouskous de Yima. Et mon cousin me dit
Karim, kiff les êtes là.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec 2-3 blédards on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit
moi je t'ai pas vu fait télévision.
Et l'autre me demande
Sahat Araf Michael Jackson.
parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu la taille. Pour d'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeia. Content de revoir mes potos et ma chebba. Pendant deux semaines j'ai mangé que de la chorba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
Avec 113 sur RFI et Tonton du Bled, c'est l'heure en sol majeur maintenant de mettre les petits plats dans les grands avec un chef dont le cœur balance, j'ai l'impression, entre persil et coriandre. Abdel Alaoui pour vous servir.
Déjeuner sur l'herbe.
Vous voyez le tableau ou pas? Du déjeuner sur l'herbe.
Bien sûr. Ça va, c'est beau.
Ah oui, hein.
Plein de couleurs.
Vous allez dans les musées parfois?
Ouais, ça, non, pas forcément. C'est pas. Je suis passionné d'art, mais j'y vais pas. Du coup, je suis en train de pousser mon fils qui a 4 ans et demi, un petit Basile. Mm-hmm. Et comme ma belle-mère est passionnée d'art, du coup, elle l'emmène partout.
D'accord.
Et il va en savoir plus que moi dans 5 ans.
Bah ouais, peut-être que lui il saura que déjeuner sur l'Eb, c'est d'Edouard Manet. Un pique-nique à la plage version Abdel Alaoui, ça donne quoi?
Ça donne un petit sandwich au thon.
C'est tout,
avec une petite boisson bien fraîche, une petite salade de fruits. Je fais un petit sirop à la cannelle juste avant, ouais. Un peu de gingembre, très frais. J'ai un club sandwich que j'appelle le club croque-monsieur.
Voilà, vous avez bugué là, on dirait.
Au lieu de croque-monsieur, c'est un croque-monsieur.
Ah oui.
Avec un pain de brot, un pain à la semoule. Et dedans, je vais y mettre de la roquette, une béchamel, du méchoui de veau.
Les traditions se perdent.
Un peu, ouais, avec le temps. Mais c'est très bien.
Oui.
Il faut garder.
Je regrette un tout petit peu, vous savez, cette époque où nos khaltis, nos mamans, ouais, se ramenaient à la plage avec la couscoussière sur le sable.
Ah, quasiment. Moi, j'ai pas connu ça. Mais le couscous, il était chaud sur le sable, forcément.
Ah, bah ça, le secret de maman.
Le secret de la maman.
Un homme à la cuisine dans la famille, est-ce que c'est une idée qui a plu tout de suite à votre père?
Pas forcément, non, ça n'a pas été une idée simple. En France, mes parents trouvaient ça bizarre, en fait, d'être cuisinier, d'être un homme. Donc j'ai dû les convaincre en les emmenant dans un restaurant où j'y ai travaillé qui s'appelle le Casodor, c'était le château. Et j'ai dit à mon père, regarde, il n'y a que des hommes, je peux travailler maintenant. Et j'ai pu, grâce à ça, y rentrer, mais ça n'a pas été évident. Mes parents, ils ont toujours voulu qu'on aille très loin dans les études et la cuisine, c'est pas forcément c'était plus un métier de débauche que
de débauche.
Enfin, de débauche. De,
pas
de,
sérieux.
Pas sérieux, voilà. C'est un métier, c'était facile, quoi, c'est trop facile. Je les ai convaincus Et j'étais passionné surtout.
Mais au départ, c'était quoi votre idée ? Faire une cuisine marocaine familiale ?
Non, pas du tout. Alors moi, pour moi, la cuisine, c'était couper des champignons assez rapidement, cuire, je sais pas, mais la seule chose que je connaissais, j'ai grandi dans un quartier où on connaissait pas forcément la gastronomie, on n'avait pas la chance d'aller dans un restaurant gastronomique, même dans un bistrot ou une brasserie. Je sais pas, c'était les aliments, c'était couper, éplucher, c'était ça pour moi la cuisine.
C'était la cuisine de votre mère.
De ma mère, voilà. Donc j'ai commencé par travailler dans une pizzeria en plus du quartier. Donc j'ai essayé de passer un CAP dans une pizzeria. Et par la suite, je suis rentré dans un petit bistrot à Saint-Germain-en-Laye. J'ai commencé à cuire, à avoir des techniques de découpe, voilà, des temps de cuisson, faire un peu de dessert. Et après, je suis rentré au Casa d'Or, premier rôle de château. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça la cuisine, c'est ce que je vais faire en tout cas.
À Paris, la ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde.
Rien, saumon grillé pour la deux.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs.
Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu.
Alors ça, je ne sais pas si vous avez eu le même parcours que Ratatouille, mais quand on s'appelle, première question, et sur votre parcours professionnel finalement, quand on s'appelle Mohamed ou Abdel, est-ce que c'est simple de faire reconnaître son talent dans la cuisine française ?
C'est pas simple, ça a été difficile déjà de convaincre mes parents pour devenir cuisinier. En fait, ça a toujours pas forcément été simple, toujours un combat en fait. Mohamed, Abdel, Mamadou, et ils étaient à la plonge. Donc finalement, quand j'arrivais en cuisine, la première chose qu'on voyait de moi, c'était il n'y a pas de place à la plonge, on est trop. Donc leur dire non, moi je viens cuisiner, moi je viens vraiment passer un diplôme, je viens apprendre la cuisine, je viens me mélanger avec vous, être commis, chef de partie et pourquoi pas être chef. Et donc j'avais toujours ce truc de tiens, bah Abdel, quand t'auras fini, tu finiras à la plonge ou il y a le sol à refaire. On prenait jamais vraiment au sérieux. J'en ai un peu souffert et après avec le temps, voilà, je me suis vraiment imposé.
Finalement, quels sont les grands chefs qui vous ont fait confiance ?
Il y a eu Michel Rostand, il y a eu Jacques Pactol au Relais Château à Casa d'Or, qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a dit, il a vu à travers moi cette passion. Il m'a dit, bah viens, je vais t'apprendre ce que c'est que la cuisine. Mais tout en ayant quand même ces petits trucs où, tiens, Abdel, il reste un peu il y a une marmite à laver. Et après, il y a eu Michel Rostand, il y a eu Pierre Gagnère derrière, où je travaillais pour lui à Londres. Donc, une fois qu'on se construit un CV et des passages dans différents restaurants, là, on commence à être convaincant, je pense.
Mais c'est pas facile, j'imagine, de se faire une place dans la gastronomie française qu'on présente souvent comme une vieille dame chic et un peu ronchon, quand même, qui a ses principes. Est-ce que vous aviez envie, Abdel Alaoui, de bousculer cette vieille dame ?
J'ai eu envie de la bousculer. J'ai eu de la chance de travailler au Phuket's avec un chef qui s'appelle Laurent Guerre. Encore une fois, ça n'a pas été évident parce que j'étais chef de partie au Phuket's et on mettait les bâtons dans les roues. J'avais une personne qui était au-dessus de moi, qui était là depuis 10-15 ans. Qui était plus âgé, et on était presque au même niveau, il y a chef de partie, demi-chef de partie, donc il allait mettre beaucoup de sel dans une marmite en disant que c'est moi.
Oui, du sabotage, ça s'appelle.
Sabotage, exactement. Et j'ai eu, par la suite, je me suis dit, tiens, faut créer, il faut innover, il faut apporter quelque chose de métissé dans cette cuisine française.
Alors, votre première création, c'est quoi ?
Ma première création, chez Gagnère, à Londres, j'ai fait un poisson, où j'y ai mis de la fraise et des olives vertes et de la coriandre. Et Pierre Gagnère, il passait comme ça entre les plans de travail, mais il avait l'habitude de goûter. Il passe, il dit oh, Abdel, fais-moi goûter ton truc là. Ah, c'est bon, c'est excellent, mettez-moi ça à la carte.
Mais là, c'est on est plus dans la cuisine, la gastronomie moderne que dans la gastronomie métissée, non ?
C'est métissé de mettre des olives vertes, de la coriandre et de la fraise.
Olives vertes, petite touche. Alors, votre livre s'intitule Alimentation générale, parce qu'on a de l'humour donc chez les Alaoui.
Bien
alimentation,
sûr.
Comme l'épicier du coin qui,
où
en France, s'appelle forcément Ali.
C'est ça, exactement. Ali, il est chez les Ali Berbère. Il a son petit tablier bleu.
Ouais.
C'est un peu l'image de Jamel Debbouze dans Amélie Poulain. Dans cette alimentation générale, en général, on trouve tout. Du coup, l'alimentation générale, elle est remplacée par des grandes marques qui cassent un peu les prix, qui sont ouverts jusqu'à pas d'heure. Et ce petit Ali qui est dans l'alimentation générale, et qui est un peu le maître de la rue, du quartier, qui connaît tout. On aime passer du temps avec lui.
L'indispensable.
Voilà, l'indispensable, ouais. On perd ça, je trouve.
Alors, vous jouez l'Ali de service, si j'ose dire. Et vous dispensez...
C'est bien pour Abdel.
Absolument. 80 recettes sucrées et salées, qui sentent bon, j'imagine, la double culture. Essayons de voir à quoi ressemble votre brique de saumon à la bakoula. C'est quoi ça ?
Bakoula, c'est des épinards. C'est une feuille qui est ronde, qui
des
pousse en France.
Des épinards du Maroc.
Des épinards du Maroc. Alors, au Maroc, elle est cultivée comme on cultive ici de la roquette ou de la mâche. Ici, c'est une herbe sauvage, la brucola. Donc on l'a au bord des autoroutes, des routes, des trottoirs. On a cette feuille qui est ronde, comme un nénuphar, mais tout petit. Et elle a un goût assez acide. On a l'impression d'y avoir mis du vinaigre ou du citron. Et nous, on l'a cuit à la vapeur, on la hache finement. Et je la mets, moi, dans cette brique de saumon. Voilà, il faut goûter la brucola. Elle a une saison, c'est au printemps. Elle se vend dans les marchés populaires en grosses bottes et il faut la hacher finement et la cuire dans une poêle ou la cuire à la vapeur et y mettre un peu de cumin, de l'huile d'olive, c'est très bon.
Le printemps vous va bien, j'ai l'impression. Ouais. Vous faites la chorba provençale par exemple.
Ouais. Bah, chorba provençale, c'est une chorba avec du persil, avec une genre de persillade.
Sans coriandre.
Il y a de la coriandre aussi, si, on y met de la coriandre. Du coup, moi j'ai accentué cette chorba de tomates et de persil et d'ail, voilà, c'est la Provence pour moi.
Et votre mercouda dauphinoise, qu'est-ce que c'est que ça ?
Mercouda dauphinoise, alors le mercouda c'est une spécialité algéroise. C'est une galette de pommes de terre qui a un peu voyagé, qui est arrivée à Oujda, un peu dans le Rif, jusqu'à Tanger. C'est comme un gratin dauphinois finalement, qui est cerclé avec un cercle et qu'on cuit à la poêle. C'est pour ça que j'ai appelé ça la mercouda dauphinoise.
En tout cas, vos épices premières, en feuilletant votre livre, là je remarque c'est effectivement le cumin, gingembre, beaucoup hein, gingembre.
Ouais, gingembre, ouais, j'adore ça.
Paprika, coriandre. C'est ce qui revient le plus souvent.
Ce qui revient le plus souvent. Là, j'utilise de plus en plus le paprika fumé. Je trouve ça hyper bon. Je trouve ça c'est un produit magique. On peut le mettre dans une kefta si on veut un goût fumé sans forcément avoir du feu chez soi. Et ça va donner ce goût fumé prononcé du goût de la kefta.
Vous êtes gourmand vous-même d'ailleurs ?
Ah ouais, moi je suis
très
gourmand. Ouais.
Comment vous faites pour être mince ?
Je sais pas. Je travaille beaucoup peut-être.
Vous faites de la cuisine marocaine ?
Je cuisine marocaine qui est très grasse. J'aime bien manger, donc je mange pas n'importe quoi. Je respecte le matin, le midi et le soir. Et j'aime cuisiner, donc je cuisine tout ce que je mange. Donc finalement, si vous voulez avoir une belle ligne, il faut cuisiner.
Vous avez fait vos armes à Paris, Abdel Alaoui, mais vous êtes effectivement passé par Londres et Tokyo notamment.
Nagoya, ouais. Enfin, qui est à 600 km de Tokyo, mais au Japon.
Quel type de savoir vous en avez ramené ? Que vous ont apporté Londres et le Japon ?
Alors Londres, c'était très agité. Je travaillais à Oxford Circus, au restaurant Le Sketch, qui appartient à Mourad Mazouz et à Pierre Gagnère.
Croisez du beau linge. Hein.
Ouais, et c'est, voilà, on était une... Ouais.
Mais qu'est-ce que
la cuisine
avez...
anglaise, elle est pas forcément bonne. On n'a pas eu cette éducation de manger du
sucré salé,
de l'agneau à la main. Mais c'est une cuisine, en fait, londonienne, c'est une cuisine où on y trouve de tout. Il y a du mexicain, il y a du marocain, il y a de l'égyptien, il y a du libanais, il y a une cuisine juive très présente, il y a une cuisine africaine. Donc il y a tout ce métissage, voilà, et que j'ai découvert à Londres et que je connaissais pas à Paris. À Paris, on a commencé à métisser que depuis. Une dizaine d'années à peine, enfin c'est récent. Hein.
Et le Japon ?
Et le Japon, cette éducation, quelque chose de carré, de pointu, d'épuré, voilà, le choix du poisson, on se réveille à 3h du matin pour aller choisir le poisson.
Un goût dans l'assiette et pas 10 ?
Voilà, exactement. La découpe du poisson, c'est quand on désosse ici un morceau de viande. Tout est important, le geste, la façon de tenir son couteau, il y a un silence en cuisine. Donc c'est vraiment l'opposé de Londres, où tout est agité, on avait même de la musique pendant le service à Londres. Là au Japon, le moindre bruit... le chef se fâche, donc on est très disciples.
Abdel Alaoui dans le fauteuil d'Ansel Majeur, Abdel qui cumule plusieurs plateaux, le plateau repas et puis le plateau télé.
Bonjour monsieur dame, alors aujourd'hui je vais vous faire un chick and chicken. Chicken, pourquoi ? Parce que le chicken il va être chic, tout simplement. Alors pour ce chick and chicken, c'est aussi un travail de diction, hein, pas facile, il vous faut du poulet, des graines de sésame, du pois chiche que vous prenez en boîte, en saumure, ou frais, mais si c'est frais, vous le laissez tremper toute la nuit dans de l'eau, à peu près minimum 6-7 heures, après il va gonfler, la peau elle va se détacher, vous enlevez la peau et vous mixez le pois chiche. Avec ça, il y a du paprika, du cumin, du sel, du poivre, de la tahini, c'est de la crème de sésame, un peu d'huile de sésame, du fromage blanc, du citron et de garlic, de l'ail. Voilà, tout simplement. Et c'est fini. Bye.
Ah, comme... Actors Studio.
Donc Abdel Alaoui, révélé sur Canal+, et chroniqueur actuellement sur France 5. Quand on vous regarde, quand on vous écoute, on se dit que c'est vraiment le mélange des genres. Hein. Vous faites et de la cuisine et du théâtre en même temps.
Ouais, c'est, pour moi, la cuisine, c'est du théâtre. Donc à partir de là, j'essaie d'y trouver des points communs. Un chef, c'est le metteur en scène. Les comédiens, c'est les cuisiniers. Ceux qui viennent voir la pièce de théâtre, c'est le client. Et à la fin,
la pièce de théâtre, c'est quoi ? C'est l'assiette ?
C'est l'assiette, ouais. C'est toute la mise en scène qui est en cuisine. Et on fournit une pièce écrite, c'est l'assiette. Et le client, il aime ou il aime pas, mais au final, s'il pouvait applaudir, il applaudit. Enfin, voilà, ouais.
Et d'ailleurs,
il y a l'aboyeur qui est le chef, qui donne un peu le ton.
Faut aboyer. Pour être un bon chef, faut bien aboyer.
C'est clair, quoi. Voilà.
Mais d'ailleurs, vous vous amusez pour la télé à proposer des concepts assez rigolos. Vous avez fait le coup du frigo vide, par exemple.
Ouais, SOS Abdel. Ça, c'était bien.
Si dans votre frigo, vous avez juste un bout de courgette, un bout d'harissa,
dites-moi,
et puis
moi,
un fond de vin blanc.
Un fond de vin blanc. Donc le fond de vin blanc, je le réduis. Je peux mettre un peu de sucre dedans, non? Je peux y rajouter un peu de sucre.
Je vais voir dans le placard.
D'accord,
si c'est quand même un
sucre. Je fais du genre de gastrique, c'est un vin blanc réduit. Je vais couper ma courgette, je vais la griller, je vais la tartiner un tout petit peu d'harissa et je vais mettre cette gastrique dessus. Ça va faire un truc un peu sucré salé. Bon, il aurait fallu quand même 2-3 trucs en plus.
Ouais.
C'est très rare qu'on ait une courgette, de l'harissa et du vin blanc.
Pas tant que ça.
Ouais, ça d'accord, faut que je
on vit pas ensemble, ça se voit. Vous amusez la galerie, c'est vrai, Abdel Alaoui, mais en fait, il y a un savoir-faire derrière tout ça parce que le théâtre, c'est pas simplement une parenthèse, c'est vraiment une passion chez
vous. C'est une passion. Je faisais un peu le rigolo en cuisine.
C'est quoi faire le rigolo en cuisine?
Bah, c'est jongler avec les assiettes, se marrer quand on avait le temps, parce qu'on attend. Et parfois, on attend les clients, ils viennent pas. Parfois, il y a des soirs où ça marche pas. Donc, il faut s'occuper.
Et vous devenez jongleur,
et
carrément.
Je deviens jongleur, je raconte des choses un peu marrantes. Et un jour, il y a un chef qui m'a dit, Laurent Guerre, au Foucault, qui m'a dit, essaye le théâtre, tu verras. Et j'étais tombé sur une annonce sur un magazine qui s'appelle Paris Boom Boom, qui est dans le métro. Et je vois École Lasserie, École du Rire. Et je vais m'inscrire, je me présente, je fais une école de stand-up. Donc je commence à écrire des sketchs, mais rien à voir avec la cuisine, c'est vraiment sketch pur. Je montais sur scène, on amusait comme ça, c'est le genre de café-théâtre. Et un jour, il y a une personne qui me voit sur scène qui me dit « Tu devrais essayer le théâtre classique, une école qui s'appelle Jean Pérémoni. » Et tout en travaillant en cuisine, donc je passais le matin très tôt, j'allais en cuisine et à partir de 15-16 heures, j'allais faire mon école de théâtre. C'était une école professionnelle, c'était pas vraiment pour devenir comédien. On a travaillé du Molière, du Jean-Michel Ribes, du Courteline, du Feydeau. Et j'ai travaillé un personnage qui s'appelait Maître Jacques dans l'Avare.
Allons-y.
Et Maître Jacques, c'était un personnage. Parce qu'il dit, il faut vivre pour manger, non pas manger pour vivre. Et cette phrase, elle m'a marqué. Et mon professeur Jean-Pierre Ebony, il ne savait pas que j'étais cuisinier.
Vous visiez pas le français ou la comédie française?
Non, pas du tout. Je visais le conservatoire, mais j'étais trop pas âgé pour entrer au conservatoire de Paris. Mais j'ai eu la chance d'avoir un agent tout de suite. J'ai commencé par la télé et je me suis dit comment faire de la cuisine un peu théâtrale. Voilà, j'ai fait de la télé.
Est-ce que vous avez envie d'entendre la voix de Jacques Lecoq?
Allez.
C'est un grand monsieur, un grand pédagogue. Il a même fait travailler Ariane Nouchkine, c'est vous dire. Donc metteur en scène, comédien, chorégraphe, pédagogue qui a travaillé le masque, le mime, le corps.
J'ai eu de la chance d'y passer.
Ben voilà. À quoi ça ressemblait.
Le théâtre, pour moi, c'est un prolongement de la vie. L'expérience personnelle, de la vie quotidienne, de la vie des événements. L'illusion théâtrale ou artistique peut en être le prolongement. Mais ce sont les mêmes lois qui dirigent l'un et l'autre. Alors si on rentre dans le mouvement, la vie et l'art se mélangent dans le fond. On va prendre comme base de départ les mots de la nourriture, qui en France est assez fort. Hein? C'est intéressant de voir aussi que dans différentes langues, on distribue la nourriture autrement. Hein? Si je dis par exemple beurre, du beurre, c'est pas la même chose que de dire butter. Hein? Le beurre anglais est en paquet déjà. Le nôtre, il est en motte. Hein? C'est pas pareil.
Non, je comprends qu'il y ait des vases communicants comme ça entre vos cours de théâtre et vos fourneaux, Abdel Alaoui. Ouais. Comment on dit beurre en arabe?
Zibda.
Ah oui.
Qui est un groupe aussi toulousain chanteur.
Oui, d'accord.
Mais Zibda, je trouve ça bien, Zibda.
Est-ce que Jacques Lecoq vous aurait permis d'explorer votre propre double culture dans vos cours de théâtre?
Alors, je suis passé dans son école, je ne l'ai pas eu comme professeur malheureusement. Je n'ai pas eu le temps en fait d'explorer tout ce qui se fait chez Jacques Lecoq. Et en fait, la première année, c'est ça qui est assez étrange dans cette école, c'est qu'on n'a pas le droit de parler. Donc on arrive...
Ça doit être dur ça pour vous.
C'est très dur, parce que je venais de passer 3 ans chez Jean-Pierre Ebony où on s'exprimait, on avait un peu de caméra, Là, on passe à 1 an sans parler, c'est-à-dire qu'on va travailler le masque. On va nous dire, par exemple, tu vas te mettre dans une cellule, t'as pris perpète, et il fait froid dans cette cellule, donc vas-y, fais-nous vivre quelque chose. Et donc, on rentre comme ça, et on travaille tout le mime, tout ce qu'il peut avoir autour de ce personnage, mais sans parler, c'est très important. Même faire... Et ben ça, on n'a pas droit, du coup, on se fait remplacer tout de suite.
Alors, vous avez fait l'école du rire, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on pourrait s'offrir justement ce que vous avez fait au Théâtre du Gymnase à Paris, puisque vous avez commis un one-man show comme show devant.
Je raconte un peu de cette histoire du mec robeux, un peu qui a commencé en cuisine.
Je parie que dans votre one-man show, il y a un hommage à votre mère.
Ouais, ma mère, elle est importante dans ce one-man show. Elle me dit, par exemple, elle dit, je t'ai porté 10 mois et c'est comme ça que tu me rends service. Hein, tu deviens cuisinier.
Vous la faites comme ça, votre mère, avec cette voix-là?
Non. Elle vous le dit. Je t'ai porté 10 mois et tu veux devenir cuisinier. Ma t'achibch, akhoya. Elle vous le dit, ma t'achibch. Bah non, maman, mais je suis passionné de ça. Je suis obligé de faire de la cuisine et tout. Tu veux me faire ça, Wildy? Voilà, après, il faut le voir en entier, le spectacle.
Elle est là, votre double culture. Donc, plus sur les plateaux de théâtre que derrière les fourneaux ou...
Ouais, les deux.
Ouais,
finalement, c'est les deux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir 3 restaurants. Et j'ai un hommage aussi à ma mère. Le restaurant s'appelle Yemma, qui veut dire maman en arabe. Et qui reprend aussi tous les codes et toutes les recettes que j'ai appris avec elle. Mais quand j'ai le temps de faire de la télé, de la scène, j'y vais. Quand j'ai le temps de cuisiner, j'y vais. Je peux choisir.
Quand vous avez le temps,
je me lève le
matin.
Voilà.
On a un point commun en sol majeur, vous et nous, c'est Vigon.
Ouais.
On kiffe Vigon, nous aussi. Un compatriote d'ailleurs pour vous.
Un Marocain, Kazaoui, qui a fait la première partie de Ray Charles à l'époque de Otis Redding. C'est un super chanteur qui est passé un peu, malheureusement, un peu inaperçu. Mais
il a
une voix. Il revient, il a fait The Voice il n'y a pas très longtemps. Et pour la 100e de l'édition spéciale sur Canal+, les producteurs nous ont demandé ce qu'on voulait faire. Et moi, j'ai proposé de faire venir Vigon pendant que je cuisinais. Et il chantait pendant que je cuisinais, mais c'était... Il a mis le feu à 12h30, quoi.
I will never turn my back on you. No, no, no. I will never turn my back on you. And I found out how you lied. I will never turn my back on you. I will never, ever let you die. No, no, no. I will never, ever let you die.
Tempête du blues ont sonné, oyé, oyé, et maintenant que tempête la régada.
H comme home, sweet home.
Alors c'est vrai, vous l'entendez cette musique, qui est une musique guerrière hein, d'ailleurs,
Aoujda. Je l'écoutais dans tous les mariages, tous les baptêmes, dans toutes les rues. Et comme tous les étés il y a des mariages, c'est là où tout le monde se concentre pour se marier. Et en fait maintenant il y a carrément des groupes qui viennent frapper à vos portes. Dès qu'ils voient un truc un peu festif, ils viennent frapper, ils disent voilà, on peut vous faire un peu regada devant la porte. Et du coup voilà, il y a une ambiance qui se crée.
Alors sinon pour vous, entre Saint-Germain-en-Laye où vous avez grandi, Oujda où vous êtes né, et puis le couscous de maman, c'est où votre maison?
Ouais, c'est un peu difficile ça. C'est un peu, je prends un peu de tout là. C'est surtout dans la couscoussière, parce que j'adore ça, la couscoussière, c'est un hammam, la couscoussière.
Faut qu'elle vous suive, en fait.
Bah, bien sûr, voilà, elle me suit tout le temps. Faudrait que j'invente une couscoussière qui soit mobile, avec, qui se déplie et qui soit facile à monter.
Portable. Cela dit, vous y allez régulièrement au Maroc?
J'y vais tout le temps, j'y vais pratiquement tous les 3 mois, j'ai besoin de ça.
Vous bossez là-bas?
J'y travaille à Casa pendant longtemps. Je travaille un peu à Tanger sur la radio Média. Et sur Casa, je travaille sur une chaîne qui s'appelle Loula, qui est la première chaîne avec Kamel le magicien. On faisait une émission de cuisine qui s'appelait L'Ahmar ou le Madar, donc la folie et la gourmandise. On mangeait, on faisait des tours de magie, on invitait des gens. Ça se passait bien, c'est une belle ambiance. Mais j'ai besoin d'y aller parce que mes parents sont retraités, ils habitent là-bas. J'ai besoin de voir mes tantes, mes cousins. Voilà,
ah
ça
oui
fait partie de.
De la couscoussière.
La couscoussière, la couscousserie.
Ça a quel goût de travailler au Maroc pour vous ?
Quelque chose de simple, assez facile. On n'y travaille pas vraiment, quoi. On se réveille. Bon, ils prennent leur temps, ça, c'est ici, on a ce qu'on appelle le PAT, prêt à tourner. Donc, il y a une horaire, il y a une fiche technique, il y a une feuille de route à respecter. Là-bas, on ne la respecte pas. On a une feuille de route.
Inch'Allah.
Inch'Allah. Si ça commence à 10h, c'est bien. Si ça commence à minuit, c'est encore mieux.
Est-ce voilà, que vous avez les codes, alors, finalement, de là-bas? Parce que vous êtes vraiment d'ici. Hein, vous êtes presque un titi parisien, vous. Hein.
Bah, j'ai les deux, finalement. J'ai les codes du titi parisien. J'arrive à savoir ce qu'on aime ici et ce qu'on aime là-bas. Et donc, je suis un caméléon. J'arrive à m'adapter dans les deux pays, dans les deux cultures. Je suis marié à une Française qui s'appelle Antoinette. Donc, je crée aussi ce métissage à travers la double culture. Donc, j'arrive à me fondre un peu dans toute la.
Vous avez trouvé votre mari, Antoinette?
Ouais, versaillaise.
Est-ce que vous adaptez votre recette aussi pour le public marocain?
Ouais, ça dépend. Non, mais ça dépend en fait, parce qu'on n'a pas forcément des produits qu'on a en France. Comme la sauce soja, par exemple, au Maroc, on ne la connaît que depuis peu. On ne cuisine pas beaucoup asiatique. Donc j'essaie quand même de m'adapter à ce qui se fait au Maroc. Il y a des choses plus sucrées au Maroc, plus grasses. Donc voilà, j'adapte aussi mes recettes, tout en restant fidèle à ce que je suis et à ce que je fais. On m'a beaucoup dit au départ, attends, c'est pas ta cuisine française ici, il faut y aller quoi. Vas-y, voilà. Dans le gras, quand tu prends la bouteille, tu d'huile, il faut appuyer dessus quoi. Donc, mais bon, j'ai réussi à imposer ce que j'aime.
Bon, puisque vous êtes joueur, je vois ça. Si on jouait à oui ou non.
Ah, c'est bien ça.
Les fringues?
Oui.
Lesquelles?
Ouais. Bah, j'adore les baskets, j'adore les...
Vous n'êtes pas fringué, là, hein?
J'adore les... Ouais, si, j'ai un t-shirt que j'ai acheté à Los Angeles, qui est pas mal, en fait. Et c'est une matière un peu écologique. Et non, j'aime bien les fringues, j'aime bien cette veste en jean. J'aime bien assembler les couleurs et les baskets.
Ah, ouais. Elles sont fleuries,
cette
baskets.
Cette marque, je sais pas, on a le droit de le dire, non?
Est-ce qu'on a le droit de le dire? On n'a pas le droit de le dire.
C'est en 4 lettres et je la mets sous toutes les formes et toutes les couleurs.
Le foot.
Le foot, je suis pas très foot, mais pendant la Coupe du Monde, je suis très foot.
Et vous avez été quoi?
Je suis pas, j'ai pas de club, je me dis pas, tiens, je suis PSG.
Les Lions de l'Atlas ou les Bleus à un moment donné?
Alors, l'avantage, c'est que les deux, finalement. Parce que j'ai commencé par les Lions de l'Atlas en me disant, on a plus de chance côté Maroc de partir plutôt que les Français. Et je trouve qu'on a fait un super mondial en tant que Marocain. Là, je parle en tant que.
Alors,
je trouve qu'on a fait un super mondial et ça a pas duré parce qu'on a pas eu beaucoup de chance. Et après, il y a la France, quoi. C'est ça qui est cool. C'est qu'on a deux pays. J'étais derrière eux et la France a fait un bon mondial.
Emmanuel Macron.
J'aime bien, j'ai voté pour lui. C'est un jeune, il a l'image de la France, et c'est le président 2.0 qui donne un nouveau souffle à la France. Je trouve qu'il fait un joli travail à l'étranger, il est assez respecté. Et en France, il faut lui donner son temps, il est jeune. Hein,
il a la toque du chef, quoi.
Il a la toque du chef, il est fort, il a l'accent américain, il salue tout le monde.
Le bilinguisme.
C'est-à-dire, je parle plusieurs...
C'est une nouvelle recette.
Le bilinguiste.
Parce que vous mettez un petit lexique à la fin de votre alimentation générale qui est sympa.
Avec les mots, des codes ou des façons de...
Bon, il y a des choses qu'on connaît, bled, kiff, etc. Il y a double kiff.
En fait, il y a plusieurs mots qu'on utilise aujourd'hui dans la langue française et qui sont issus soit des quartiers, soit de la langue arabe. Kiff, toubib, ce qui veut dire toubib.
Absolument, smala.
Boui-boui. Boui-boui.
Wesh-cousin.
Wesh-cousin. Non, il y a plein de choses.
Alors, c'est mignon parce que vous mettez jusqu'au you-you.
Au cas où. Indien, ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand on est content, on fait un you-you. Alors même si on est, il y a pas forcément marocain,
même
algérien,
si c'est l'équipe de France qui gagne, on fait un youyou.
Enfin, youyou. Il y a toujours un drapeau algérien ou marocain qui traîne, mais on fait quand même un youyou.
L'écologie.
L'écologie, ouais, c'est quelque chose d'important pour moi. Dernièrement, j'ai fait tout un cours de cuisine autour de l'écologie avec Yann Arthus Bertrand au Good Planet, où comment apprendre à se nourrir avec des choses qu'on a autour de soi. Comment faire pousser des légumes. Et la chance de ce cours de cuisine, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Good Planet, c'est vachement bien en fait. C'est pas loin de l'hippodrome à Boulogne. C'est gratuit, c'est l'entrée gratuite. Je vous invite. J'invite toute l'équipe d'ailleurs.
Le VIP.
Voilà, le VIP. Et en fait, j'ai donné un cours de cuisine en plein milieu d'un potager. Donc les gens sont partis cueillir leurs petites verveines, leurs menthes, leurs basilic, leurs herbes fraîches. Et on a fait un cheesecake oriental avec de la fleur d'oranger, de la pâte de date qu'on appelle majuna, avec des petites feuilles d'aromates, et les gens étaient contents quoi. Ça les a fait sortir un peu de leur quotidien.
Et bah justement pour le dessert, je pense qu'on ne peut pas ne pas évoquer en sol majeur la reine de votre cœur, Abdel Alaoui, celle que vous appelez justement Yemma.
ساعة بقرب الحبيب أحلى ما في الحياة ينسى الفؤاد نحيب ويشكي حب وهوى ساعة 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 بقرب الحبيب.
Farid et la trache, ah ouais, c'est pas mal hein, comme pouf, ça sent tout de suite la chorba, enfin là c'est mon côté algérien, j'arrive pas à dire la chorba en marocain.
Marocain, chorba ?
Non, harira.
Harira, ah oui, harira. Nous à Oujda, l'avantage c'est qu'on est une ville qui est en plein milieu et on a de la chorba algérienne et harira marocaine, donc on a les deux, là, c'est chance.
C'est laquelle la meilleure ?
Il y en a une qui est plus gourmande, c'est la chorba qui est plus gourmande que la harira.
Votre mère, que vous appelez Yemma, à part son couscous, c'est quoi son secret ?
À part son couscous, c'est de nous avoir bien éduqués, je trouve. Ma mère n'a jamais travaillé, elle a gardé des enfants, on a toujours vu des enfants passer à la maison. Ils lui rendent bien parce qu'aujourd'hui ils ont grandi, ses enfants, ils viennent la voir, ils la considèrent comme une grand-tante, comme une deuxième maman. Et cette éducation, ce respect, le vivre ensemble finalement, nous on l'a appris tout petit. Il y avait du monde qui passait chez nous, il y avait des Africains, des Français.
Elle vous a donné le double mode d'emploi, oriental et
oriental,
occidental.
Ouais. Mes parents, ils ont toujours voulu qu'on soit très propre, mais pas dans la
l'hygiène.
Dans l'hygiène, dans la façon de parler, d'être coiffé.
L'éthique,
voilà, c'était très important pour mon père et ma mère. À l'école, il fallait qu'on soit bon. Enfin, ils l'ont fait naturellement comme ça. On n'a pas eu des règles très dures, mais voilà, c'est une belle éducation en tout cas.
Donc vous deviez de baptiser un de vos restaurants Yemma ?
Obligé.
Ah ouais. Sif.
Sif.
Donnez-nous 2-3 arguments pour venir manger chez vous, dans votre Yemma.
C'est une cuisine de voyage, tradition, c'est une cuisine marocaine, cool. Algéroise aussi.
Cuisine de voyage.
Bah parce que quand on arrive, on voyage, on a la table Formica qui nous rappelle un peu l'enfance de la grand-mère normande ou marseillaise ou de Oujda, parce qu'on avait aussi Formica à Oujda. On a Zillej qui est par terre, ce carreau de ciment oriental. On a du parquet qu'on pouvait avoir dans les appartements parisiens si on a grandi à Paris. On a cette double culture, on a ce carrelage qui est sur le plan de travail qu'on appelle potager. Voilà un mot aussi, le potager. On a le potager, nous, chez Yemma, sur lequel on met la menthe, les citronnades, les jasminades. Voilà, on voyage. Dès qu'on rentre chez Yemma, on voyage.
Sa couvette.
Là ?
La cuvette.
La cuvette.
C'est du kabyle français.
La couvette. Non, la cuvette, elle est dans les toilettes. Et dans les toilettes, j'ai mis des carrelages blancs partout avec des petits miroirs. Vous savez, ces petits miroirs qu'on achetait, on avait cette brosse de cheveux. On mettait nos deux doigts entre. Et on chotte. Donc on brossait. Et donc j'ai mis des petites brosses dans les toilettes. Les petits miroirs, ce petit miroir en plastique qu'on achetait 2 francs dans l'épicerie du coin. Et j'en ai mis partout dans les toilettes. Donc il y a vraiment un rappel, il y a un retour à l'enfance.
Oui, ouais, c'est
donc,
ça.
C'est un voyage.
Une reconstitution de votre enfance.
Exactement. Donc il y a tout le monde voit à travers Yemma sa maman quoi, sa Yemma.
En sol majeur @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur bio un peu finalement si on écoute bien entre les lignes, un livre qui fera sans doute recette alimentation générale, 80 recettes marocaines signé Abdel Alaoui, c'est aux éditions La Martinière. Edith Préto, pour refermer cet en sol majeur. Ça va ou pas?
C'est très bien, ma mère, voilà, on y est quoi.
Mais pourquoi lui?
Parce que j'adore ce qu'il fait. Alors moi je l'ai découvert sur C'est à vous, parce que comme je suis dans l'émission C'est à vous sur France 5.
Très télé, hein.
Ouais, il a une jolie plume, il a un truc, il est assez, c'est du rap et assez poétique, il a une façon de chanter, c'est assez tranché, c'est assez... On a l'impression que c'est violent, mais pas du tout, c'est assez poétique dans sa façon de... Et c'est assez brut comme chanson, et il le fait d'une telle simplicité que t'es tout de suite embarqué.
Chocolat.
Chocolat, bzzef.
Sais-tu ce que tu as fait, ma mère, tu m'as rendu fort avare, ma mère, mes émotions sont en pack, ma mère, et tu les casses sans que tu saches, ma mère, à force de rien laisser paraître, ma mère, bah tu les as même mis en cage, ma mère, à coups de clé bien trop discrète, ma mère, qui n'enferme que ta forte face, ma mère, dis-moi ce que tu as fait, ma mère, de ce que je ne sais défaire, ma mère, de tous ces petits nœuds trop graves, ma mère, qui me pèse le cœur kilogramme, ma mère, promis un jour je serai moins laid, ma mère, si seulement j'avais bu ton lait, ma mère, peut-être m'aurait-il fait des lacs, ma mère, de larmes et de baisers en vrac, ma mère, dis-moi ce que tu as fait, ma mère, tu m'as rendu moins bavard, ma mère, t'as fait de mes élans des impasses, ma mère, devant l'amour je suis ignare, ma mère, cette sensation d'être tout bizarre, ma mère, face à ces gens aux bras ouverts, ma mère, qui me foutent le ventre en tache, ma mère, et qui me sème un grand bazar, ma mère, dis-moi ce que tu as fait, ma mère, pour que je reste dur comme fer, ma mère, avec ce cœur figé du lac, ma mère, mais est-ce à cause de tes impacts, ma mère, ou peut-être de tes défaites, ma mère, dont t'as perdu le mot de passe, ma mère, avec tes restes de colère, ma mère, que tu m'as posé dans mon sac, ma mère, je garde tout près du thorax, ma mère, et je me garde comme un gant, ma mère, pour me protéger de tes crasses, ma mère, qui me reviennent comme des boomerangs, ma mère, promis un jour j'aurai le fer, ma mère, te dire au combien sans se taire, ma mère, mais pour l'instant je fais le fier, ma mère, imperméable comme ton grand air, ma mère, promis un jour j'aurai le fer, ma mère, te dire au combien sans se taire, ma mère. Mais pour l'instant je fais le fier, ma mère, imperméable comme ton grand air, ma mère, non, non, relève-toi et attends ta relève et là, console la peine que tu gardes en toi, t'es plus trop belle quand t'es au plus bas, et non, non, oublions tout et attends, tu tiens plus debout, retrouve ta fougue et tous tes bijoux. Tu brilles mille feux quand t'es pas à genoux. Ma belle, 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 promis un jour j'y arriverai. Ma mère, 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 promis un jour j'y arriverai, ma mère, à te regarder tout simplement, ma mère, sans en vouloir à terre entière, ma mère, un jour je t'appellerai maman.
En sol majeur avec Facebook, Twitter, et puis pour nous retrouver en podcast, notre application Pure Radio, et bien sûr derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Marjorie Bertin, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Shirley Soignon. À demain.
J'adore.
Ah ouais,
ouais cool.
Vous restez alors.
Super humoriste.
Ok.
Yo, Minka Disa. I do love this. Yes.